Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et une éminente historienne américaine vient de disparaître. Et vous aviez envie de nous la présenter ce matin.
Connaissez-vous Gertrude Himmelfarb, qui vient de mourir à l'âge de 97 ans? Probablement pas, et vous avez des excuses. Aucun des livres de cette immense historienne des idées et philosophe américaine n'a eu l'heure de convaincre un éditeur français. Il y a ainsi des contemporains capitaux qui échappent à nos radars hexagonaux, soit par manque de curiosité intellectuelle, soit parce qu'on n'a pas envie de savoir ce qu'ils avaient à nous dire. Ce qui pourrait bien être son cas. Gertrude Himmelfarb a en effet exposé dans plusieurs livres les défauts de nos lumières françaises auxquelles elle préférait opposer l'Enlightenment anglo-saxon. Les lumières françaises lui paraissaient d'autant plus radicales que la France était au XVIIIe siècle en retard d'une révolution sur l'Angleterre. D'un siècle exactement, puisque la Déclaration des droits, imposée par le Parlement aux nouveaux souverains Guillaume III et Marie II, date de 1689. Comme on le lit dans l'ouvrage d'Edmond Dziembowski, paru l'an dernier chez Perrin, sous le titre « Le siècle des révolutions », cette Déclaration des droits limitait considérablement et définitivement les prérogatives de la monarchie britannique. Elle ne peut plus ni lever d'impôts, ni entretenir une armée sans l'approbation du Parlement. Dès la fin du XVIIIe siècle donc, les Anglais s'étaient dotés ainsi d'une monarchie constitutionnelle, alors que nos rois, à nous, se prétendront encore de droits divins pendant un siècle.
La France, écrit Gertrude Himmelfarb, n'ayant eu ni réforme religieuse ni révolution politique, elle était mûre pour les deux à la fin du XVIIIe siècle.
Les Français, selon Gertrude Himmelfarb, se sont accaparés les Lumières. Leur radicalité avait quelque chose de plus séduisant que l'Enlightenment anglo-écossais ou même que l'Aufklärung allemande. Par la suite, la Révolution française fut également révérée malgré ses échecs parce qu'elle avait prétendu mettre en musique les Lumières françaises. Or, celle-ci prétendait reconstruire tout le système des relations sociales avec pour seule boussole la raison. Les Lumières britanniques avaient au contraire opté pour les vertus sociales, la compassion, la bienveillance, la sympathie. Or, pour Gertrude Himmelfarb, les mœurs, les principes moraux d'une époque sont plus déterminants que ses idéologies. Alors je vais vous citer un extrait assez éclairant de son livre non traduit donc, The Roads to Modernity, The British, French and American Enlightenments. Ainsi, il n'y eut pas en Angleterre de projet des Lumières destiné à discréditer la religion ou à séparer l'Église de l'État ou à créer à la place une religion civile. Il n'y avait pas d'Église oppressive ou de théologie dogmatique contre lesquelles se rebeller, mais pas non plus de nouvelle autorité ou d'idéologie pour inciter à la rébellion. Or en France, la raison était cette autorité et cette idéologie, une raison si suprême qu'elle défiait non seulement la religion et l'Église, mais toutes les institutions dépendant de celle-ci. La raison était en soi subversive puisqu'elle visait un futur idéal et méprisait les déficiences du présent, sans parler de celles du passé. Elle méprisait aussi les croyances et les pratiques des gens non éduqués et de basse extraction. La philosophie morale britannique, au contraire, était plutôt réformiste que subversive, respectueuse du passé et du présent, tout en attendant impatiemment un futur plus éclairé. Elle était plus optimiste aussi, et à cet égard, au moins, plus égalitariste. Le sens moral et le sens commun étant partagés par tous les hommes et pas uniquement par les éduqués et les bien-nés. Gertrude Himmelfarb était née dans une famille juive et pauvre à Brooklyn. Très jeune, elle avait rencontré un petit groupe trotskiste, l'homme de sa vie, Irving Kristol. Et avec Norman Podoretz, T.S. Eliot, Saül Bellow, Mary McCarthy et Hannah Arendt, ils firent tous deux partie du cercle intellectuel new-yorkais qui publiait la fameuse revue de gauche, Partisan Review. Par la suite, le couple Kristol-Himmelfarb se tourna vers une forme de conservatisme. Dans son article « From Clapham to Bloomsbury, a genealogy of morals » publié dans la revue Commentary récemment, elle jugeait sévèrement l'évolution morale de la Grande-Bretagne. La secte de Clapham, en effet, un groupe de chrétiens anglicans, avait lutté au début du XIXe siècle pour faire interdire l'esclavage et réformer le système pénitentiaire. On y pratiquait les vertus qualifiées de victoriennes ou de bourgeoises pour les opposer aux vertus aristocratiques. Éthique du travail, bienveillance, tempérance, autodiscipline, modération. Au début du XXe siècle, le groupe de Bloomsbury, auquel appartinrent, on s'en souvient, Virginia Woolf et John Maynard Keynes, opta pour une pause de rébellion envers la morale victorienne. L'art était leur seule religion et ils ne se reconnaissaient de devoir ni d'obligation envers quiconque. Aux yeux de Gertrude Himmelfarb, les élites culturelles avaient trahi leur mission par narcissisme et autocomplaisance. Comme l'écrivait hier l'éditorialiste David Brooks dans le New York Times, si un néoconservateur est une personne de gauche qui rompit avec la gauche quand ses leaders, dans les années 60, troquèrent les valeurs bourgeoises pour la contre-culture, alors oui, Gertrude Himmelfarb était une néoconservatrice.
Merci beaucoup Brice Couturier donc pour cette historienne américaine qui vient de disparaître et qu'il faut lire dans le texte, hein, donc non traduit encore, pour l'instant en tout cas.